Bah, comme Dieu l'a voulu, on va faire la suite du Notre Père. La dernière fois, j'avais fait la première partie du Notre Père. On avait dit, est-ce qu'il est le Père de tous ? Alors je dis oui, en tant que créateur, mais en tant que spirituel, il n'est pas le Père de tous. Et on avait vu que l'importance d'être son enfant, et pour cela, il fallait croire en Christ et le recevoir, et il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et après, on reçoit, à ce moment-là, on reçoit l'Esprit et on peut dire Abba, Père, dire Papa, Père, mon cher Père. Donc, je vous propose de relire Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Nous allons revoir notre Père en entier, mais on va faire la deuxième partie. Donc on va le lire. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du malin. Donc, la deuxième partie est plutôt une requête, c'est plutôt une demande selon nos besoins. Et on commence par donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que cette prière nous concerne maintenant ? Nous qui sommes, la plupart ont un CDI, ils sont mensualisés, peut-être certains avec des frigos pleins et des congélateurs pleins, un compte en banque plein. Alors, est-ce qu'il faut demander notre pain quotidien? Alors c'est vrai qu'au temps de Jésus, les personnes étaient payées à la journée. Ils n'étaient pas payés au mois. Ils étaient payés à la journée. Et s'ils n'étaient pas payés, et il y en a qui travaillaient pour une journée. Et puis le lendemain, ils cherchaient un autre patron et puis ainsi de suite. C'était vraiment le travail précaire. C'est vrai que ça nous rappelle aussi le peuple juif qui était dans le désert, et chaque jour ils avaient la manne, et ça a dû être formidable ce qu'ils ont expérimenté. Chaque matin ils avaient ce pain, cette manne, et même la veille du sabbat ils avaient le double, parce que le lendemain il n'y avait pas la paille, il n'y avait pas la manne à ramasser. Mais cette prière est toujours d'actualité. Dans certains pays, il y a la famine. Dans certains pays, cette prière est sur les lèvres. Oh Seigneur, donne-moi ce pain aujourd'hui. Parce que si je donne pas, si tu ne me donnes pas ce pain, j'ai rien à manger. Mais en France aussi, il peut arriver qu'il y a des pauvres en France. Il y a aussi, peut-être ce matin, des personnes qui ont du mal d'une façon financière, ou qui est au chômage et qui peut faire cette prière: Seigneur, donne-moi un travail pour que je puisse avoir ce pain quotidien. Par contre, si vous manquez de rien, qu'est-ce qui reste à faire? Louer le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ce pain que tu me donnes jour après jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes jour après jour. Merci parce que je suis dans l'abondance, parce que j'habite un pays qui est dans l'abondance. C'est vrai que dans cette demande de ce pain quotidien, on peut dire, comme on avait vu, que c'était un modèle. Ça engendre le pain, ça peut engendrer aussi le vêtement, ça peut engendrer un toit, ça peut engendrer aussi la santé. Donc Le Père attend nos prières. Parce que notre Père, il veut notre bien. Il veut qu'on lui fasse confiance. Et c'est très intéressant parce qu'on peut vite tomber dans l'inquiétude. Dès qu'il nous manque quelque chose, on peut être dans l'inquiétude. Mais dans ce même chapitre, un petit peu plus loin, dans Matthieu 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et il y a tout ce passage qui dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison ? Jean de peu de foi, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Notre préoccupation, en fin de compte, c'est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et il continue dans d'autres passages. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je peux tout lui dire. Un autre passage dans Pierre, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais la Bible nous dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je peux aussi faire cette demande de ce pain quotidien pour mon âme, cette nourriture spirituelle. Seigneur, j'ai besoin que tu parles à mon cœur. J'ai besoin que tu me parles. Parle-moi, Seigneur. Mais est-ce que j'ai soif de cette parole ? Est-ce que j'ai soif de cette parole ? Cette semaine, j'ai été voir quelqu'un à la prison de Fleury. Quelqu'un qui s'est converti il y a un peu plus d'un an et demi. Il m'a dit, Michel, je veux apprendre. Apporte-moi des livres, il veut des livres en théologie. J'ai déjà lu ma Bible 5 fois, en entier. Alors c'est sûr qu'il a du temps. Mais il suit des cours par correspondance. Il suit 2 cours par correspondance. Et puis il contamine d'autres, il y en a un autre maintenant. Hier il m'a dit, je suis cours par correspondance parce qu'il m'a donné, c'est formidable. Il me dit, voilà, je me suis mis un plan de lecture, je lis 10 chapitres par jour. Il me dit, c'est vrai que j'ai du temps. Mais il profite de ce temps. Et est-ce que moi, quand je ne perds pas du temps, des fois dans bien des choses, et je pourrais avoir du temps pour étudier, pour... Mais peut-être que je n'ai pas cette soif de la parole. Comme Jérémie qui dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Oh, j'ai tellement lu la Bible. Qu'est-ce que je pourrais lire ? Oh, mais il y a toujours à lire. Vous savez, ce qui est formidable dans la Bible, c'est que même si on l'a lu 10, 20, 30 ou 40 fois, on a toujours des choses à apprendre. parce que Dieu parle à travers sa parole. Mais est-ce que j'ai ce désir comme Jérémie, ou alors le psalmiste qui dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Waouh ! Est-ce que la parole de Dieu est plus précieuse que ce que je peux posséder ? Ou est-ce que je suis comme Samuel ? Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. J'ai fait souvent cette prière, je le fais souvent d'ailleurs, quand je dois prêcher ou quand j'ai un entretien que je dois avoir à une personne. C'est ma prière, c'est « Seigneur, donne-moi une parole. » Dites à propos. Une parole qui parle. Une parole qui réponde. Parce que, vous savez, il suffit d'une seule parole. Et ça peut guérir, ça peut changer une vie. Une seule parole peut transformer une vie. C'est formidable. Et c'est ma prière. Seigneur, donne-moi une parole. Une parole dite à propos. Une parole juste que tu veux pour la personne que j'ai rencontrée. Alors vous allez dire, oh oui, mais moi je ne suis pas pasteur, donc je n'ai pas besoin de faire cette prière. Si. Si. Parce que vous rencontrez des personnes. Vous rencontrez des inconvertis. Et vous rencontrez des frères et des sœurs. Je vais vous donner le passage. C'est Éphésiens 4, 25. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Là, vous pouvez faire cette prière. Seigneur, je voudrais une parole de grâce pour les personnes que je vais rencontrer. Et c'est tellement mieux une parole de grâce qu'une calomnie. Hein. Seigneur, donne-moi une parole de grâce. Une parole qui fasse du bien à la personne que j'ai rencontrée. Je peux faire cette prière-là. Donne-moi ce pain spirituel pour la donner à un frère ou à une sœur que je vais rencontrer. Ou à plusieurs d'ailleurs. La suite dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Voilà. Je relis. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire que le pardon de Dieu peut s'acheter ? Ça veut dire que si je pardonne, il va me pardonner. Alors donc, et comme je pardonne, alors, oh là ! Le pardon, il serait vraiment limité s'il devait pardonner comme on pardonne pour notre salut. Nous savons que le pardon de Dieu, selon la parole, c'est Dieu qui le donne. Et il le donne par Jésus-Christ. C'est lui qui a tout fait pour donner ce pardon. Dans le dictionnaire, il dit « Acte par lequel Dieu remet et oublie les péchés de l'homme en réponse à sa foi et l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. » Et nous savons que c'est par Jésus-Christ que nous avons le pardon. C'est lui qui a payé la dette. C'est lui qui a payé par son sang par rapport à nos péchés. C'est pour ça qu'il est dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Ou alors « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Est-ce que j'ai expérimenté le pardon de Dieu ? Est-ce que je peux dire « Je sais que je suis pardonné. » Est-ce que je peux dire cela ce matin ? Ou est-ce que vous dites « Oh non, je ne peux pas être pardonné parce que ça ne va pas. Il y a plein de choses dans ma vie et je sais que je suis pécheur. » Alors faites comme ce publicain qui est monté au temple et qui s'est frappé la poitrine et qui a dit « Oh, aie pitié de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. » Et là, le Seigneur fait grâce. Là, le Seigneur donne son pardon. Parce que c'est Christ qui a tout fait. Ou Ou alors comme David dans le psaume, où il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait le mal, ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Est-ce que j'ai expérimenté ce pardon? Est-ce que je peux dire, voilà, Dieu m'a pardonné, je suis libéré? Ou est-ce qu'il y a encore un grand passif dans ma vie? Des choses que je sais que les choses qui ne sont pas en règle aussi. En tout cas, si je suis passé par une véritable repentance, et si je crois à ce que Christ a fait sur la croix pour moi, je reçois le pardon, je reçois la grâce. Je suis son enfant, je lui appartiens. Alors je peux être heureux, comme il est dit dans le psaume 32, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Je suis heureux. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus rien qui fait obstacle entre moi et mon Dieu. Alors si j'ai reçu le pardon de Dieu, la parole de Dieu nous dit, pardonne aussi aux autres. Dans Éphésiens, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Christ, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si j'ai expérimenté le pardon de Dieu, je dois aussi avoir le pardon dans mon cœur par rapport à telle ou telle personne. Et un autre passage, il dit « Supportez-vous les uns les autres. » Et c'est là, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Pourquoi? Parce que l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et dans Pierre, il dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Alors, par rapport au pardon, j'ai voulu lire cette semaine un livre sur le pardon. Choisir le pardon. Donc, je me suis lu ce livre. Et il y a deux citations dedans. Une de Spurgeon qui dit ceci. « Être pardonné est si doux que comparer, être pardonné est si doux que comparé à cela même le miel semble fade. Cependant, il y a une chose encore plus douce, c'est de pardonner. En plus. Et Henry Watt dit ceci, le pardon devrait être comme une note que l'on détruit, qu'on l'on déchire en deux et qu'on l'on brûle, afin que jamais elle ne puisse être utilisée contre quiconque. » Et dans ce livre, personne qui écrit ce livre, regardez la couverture. Elle a mis un clavier d'ordinateur. Et il dit, dans le clavier d'ordinateur, il y a une petite touche. Supre. Et en appuyant là-dessus, tout le dossier peut être supprimé. Et bien souvent, il peut avoir des grands dossiers par rapport à tel. Oui, celui-là, il m'a fait telle et telle chose. Et ça reste dans mon compte là, voilà. Ça reste dans mon disque dur ou dans mon programme. Super. Comme Dieu m'a pardonné. Qu'est-ce qu'il est dit ? Dans l'hébreu, il dit, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est pas que Dieu oublie, mais volontairement, il dit, je m'en souviendrai plus. Et heureusement que le Seigneur ne se souvient plus de ce qu'on a fait. Hein. Mais est-ce que je suis prêt à choisir le pardon dans ma vie ? Parce que si je ne choisis pas le pardon dans ma vie, vous savez ce qui se passe ? On se fait plus de mal, déjà. Il y en a même qui, il y a même des gens qui sont malades, physiquement, à cause de manque de pardon, tellement ils sont chargés. Ils ont tellement de rancune. Et c'est pour ça que dans Hébreux, il est dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je peux me priver de la grâce de Dieu parce que je refuse de pardonner. J'ai une rancune qui est en moi, qui me dévore. Et je ne suis pas tranquille. C'est pour ça qu'il dit qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Il faut que ce problème se règle. Alors j'ai deux exemples dans la Bible. Un qui ne pardonne pas et l'autre qui pardonne. Ah, il y en a plus. Mais j'ai choisi deux exemples. Le premier, c'est Absalom. Absalom, vous savez ce que Amon a fait à Tamar, sa sœur. Et il est dit, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amon. Mais il le prit en haine. Parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après. 2 ans après. Il va tuer Amon. Vous vous rendez compte? Et David avait peur. Il dit, mais est-ce qu'il a tué tout le monde? Et il y a quelqu'un qui lui dit, non. Il a tué qu'Amon. Parce qu'il dit, c'était une résolution d'Absalom, une décision qu'il avait prise. Il avait gardé cette résolution, je me vengerai un jour. Ça, vous voyez ? Et c'est pas le temps qui va effacer. Bien souvent, il y a des gens qui disent, ah, avec le temps, ça va s'effacer. Hey, 2 ans qui se sont passés. Ça, c'est la rancune qui détruit. Par contre, un autre exemple, Étienne, on est en train de le lapider, on est en train de lui jeter des pierres. S'étant mis à genoux, imaginez-vous, hein, on est en train de lui jeter des pierres, il se met à genoux. Et il s'écria d'une voix forte, et je pense que c'est fait exprès pour que les gens ils l'entendent, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Ah, c'est beau. Ça, c'est une belle mort. Il s'endormit. On est en train de le lapider et il a le pardon dans son cœur. Je suis peut-être celui qui n'a pas compris la grâce. Je suis peut-être comme cet homme dans Matthieu 18. Où le roi a demandé de rendre des comptes. Et puis il y avait quelqu'un qui devait 10 000 sacs d'argent. C'est second 21. Et il y a une petite note en bas de la page. C'est 600 000 fois plus que ce que l'autre va lui devoir. 600 000 fois. Et là, le roi, tu vas me payer. Non, mais je peux pas. J'ai ici. Non. Aie pitié. Et le roi lui remet la dette. Lui remet la dette de 10 000 sacs d'argent. Et quand il sort, il voit celui qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prend, il l'étrangle. Donne-moi, mais je peux pas tout de suite, mais aie pitié. Non, non, non. Et il le jette en prison. Et ce qui est très intéressant, c'est ses compagnons qui voient cela. Et c'est ses compagnons qui vont le dire au roi. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Est-ce que j'ai compris la grâce ? Et est-ce que je suis sauvé ? Parce qu'on peut se poser des questions. S'il n'y a pas le pardon dans votre cœur pour un tel ou un tel, il y a un gros point d'interrogation. Et je le dis sérieusement. Si vous n'avez pas le pardon pour un tel ou un tel, et vous avez dit que vous avez eu le pardon de Dieu, c'est qu'il y a un gros problème. Il faut régler ça tout de suite. Il faut choisir le pardon tout de suite. Parce que vous êtes là en danger. Et en fin de compte, vous vous privez de la grâce. Et en plus, Dieu ne vous répondra pas. Vous pourrez toujours prier, il ne vous répondra pas. Parce qu'il est dit que le manque de pardon est un obstacle à la prière. C'est pour ça que quand il dit « pardonne-nous comme nous pardonnons », c'est comme il dit « quand tu t'approches, si donc tu te présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Autrement, je ne t'écoute pas. Tu ne peux pas avoir la communion avec moi, c'est pas vrai. » On est en train d'étudier en ce moment la première épître de Jean. Celui qui n'aime pas son frère, il est encore dans les ténèbres. Il est encore dans les ténèbres, c'est ce qu'il est dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Est-ce que il y a quelque chose dans ma vie où il n'y a pas le pardon ? Et encore dans Timothée, c'est marqué « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Donc, s'il y a quelque chose qui fait obstacle, réglez ce problème. Alors peut-être vous allez dire « Oui, mais là, ce qui m'a fait, mais ça me fait tellement mal !» Ça, je peux le croire. Il y a des fois, il y a des gens qui nous font très, très, très mal. Il y a des fois, c'est une plaie qui est là, qui m'a dit, mais pourquoi il m'a fait ça? C'est comme un coup de couteau dans le dos. Pourquoi il me fait ça? Et c'est vrai. C'est très intéressant, dans ce livre, il y a beaucoup de témoignages des cas extrêmes. Je l'écoute à couper le souffle. Et les gens ont choisi le pardon. Et combien le Seigneur a fait grâce. Des gens qui ont été même à perdre leur mari parce qu'ils avaient été pris par des terroristes. Et il y a eu une balle perdue. Mais des vies où ils n'ont pas voulu garder de la rancune. Ils n'ont pas voulu garder de l'amertume. Et en fin de compte, ils peuvent vivre parce qu'ils ont le pardon de Dieu dans leur cœur. Mais si je n'ai pas le pardon dans mon cœur, je ne peux pas m'adresser à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque de communion. Alors je peux dire, ah mais Dieu il m'écoute plus, il me répond plus. Bah oui, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Et s'il y a un manque de pardon, alors il faut dire, mais Seigneur, je veux obéir à ta parole, mais je n'ai pas la force. Déjà c'est un point. Je veux le pardon dans mon cœur. Oui Seigneur, je pardonne. Mais donne-moi la force. Et il va le faire. Je pense à cette femme, Corrie ten Boom, qui a vécu toutes sortes de choses dans les camps de concentration. Et un jour, elle a perdu sa sœur. Et elle, elle a été libérée. Plus tard, le Seigneur, elle a dit, « Coury, je veux t'aille en Allemagne. » « Ah non, Seigneur, je ne veux pas aller en Allemagne. » « Si, va en Allemagne. » « Mais Seigneur, va en Allemagne. » « Va dire l'amour de Dieu. » « Va parler du pardon. » Et puis là, elle est en Allemagne. Et il y a toute une conférence qui est là et elle donne comment Dieu a fait grâce, comment son amour était plus fort que l'enfer. D'ailleurs, le titre du film et le titre du livre, Dieu en enfer. Hein, c'est dans le sens que dans les camps de concentration. Et la réunion se termine et en face d'elle, il y a quelqu'un qui arrive, qui lui tend la main. Il dit, j'ai reçu le pardon de Dieu, mais je voudrais savoir si vous me pardonnez. Et en face d'elle, c'était le gardien qui était responsable de la mort de sa sœur. Et là, il y a eu toute chose qui s'est passée dans sa tête. Il y a eu toute chose de... Et elle dit, je ne sais pas combien de temps ça a duré avant que je prenne sa main. Mais quand... Elle a pris sa main et a dit, je vous pardonne. Dieu l'a rempli de son amour. C'est pour ça que des fois on dit, se priver de la grâce, c'est bien. Dieu va me donner la grâce, va me donner la force. Et Dieu lui a donné la force, l'a rempli de son amour. Parce que c'est vrai que ça nous dépasse. Des gens qui nous ont fait tellement mal. Mais combien dire, voilà Seigneur, je veux le pardon dans mon cœur. Je veux régler aujourd'hui. Si j'ai un problème aujourd'hui je veux le régler. Je veux pas attendre demain. Aujourd'hui, si le Seigneur vous a parlé, réglez le problème aujourd'hui. Écrivez, téléphonez, allez voir quelqu'un, dire voilà, je te demande, je te pardonne. Oui, mais lui, il m'a pas demandé pardon. Pardonne. Je veux obéir à ta parole. Parce que je veux cette communion avec toi. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Nous savons ce que dit la parole. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui le tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais alors, qui est le tentateur? C'est Satan, on le sait. C'est le diable. Mais on voit l'exemple de Jésus qui est amené dans le désert, tenté par le diable. Mais on voit aussi ce qui se passe. Il y a des choses qui nous dépassent, c'est vrai. C'est avec Job. Et c'est là où on voit que Dieu permet des choses. Ça nous dépasse. Hein. Dieu laisse faire. C'est dur, hein, des fois. Hein. Mais il donne toujours une limite. Il avait dit à Satan, pas plus loin, pas sa vie. On voit un autre passage. C'est très intéressant, c'est celui de Luc, où Jésus parle à Pierre. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Dans la Bible, à Français au courant, je vous le lis. Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer au crible comme on fait pour purifier le grain. Et c'est très intéressant. Parce que le Seigneur accepte, parce que des fois le mot tentation, épreuve, Et à chaque fois, en fin de compte, Dieu en sort vainqueur. Ses enfants, pour Job, à la fin de sa vie, je reconnais que tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à tes pensées. Et Pierre, il a appris la leçon. Lui qui était tellement sûr de lui-même. Oh non, Seigneur, je te le... Eh oui, ben il a appris la leçon. Et du coup, même ce que Satan peut nous faire, Dieu le change en bien. Donc pour nous purifier, c'est vrai que Dieu laisse des fois pour nous éprouver, pour savoir où on en est, comme l'or qui est éprouvé par le feu. Dans cette prière, ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça montre une prière, ça montre notre faiblesse. Seigneur, viens à notre secours. J'ai besoin de toi pour vivre. J'ai besoin de ta dépendance. C'est ça. Quand on fait cette prière, c'est Seigneur, délivre-moi du malin, parce que si tu ne me délivres pas... Bon, parfois, on fait cette prière, mais c'est nous qui nous mettons en danger. C'est nous qui provoquons. Si je regarde des livres pornographiques, si je regarde des livres, des films pornographiques, et après que je sois tenté et que je tombe, c'est de ma faute. C'est moi qui provoque. C'est moi qui me nourris de choses qui peuvent me faire tomber. C'est pour ça que la Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui vous font la guerre à l'âme. Mais chacun est tenté quand il est attisé et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est vrai qu'on peut avoir des tentations, des choses qui... C'est pas péché d'avoir une tentation, c'est tomber dans la tentation. Comme disait Luther, je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire un nid. Parce que c'est vrai. On est dans un monde où il y a plein de tentations, avec les affiches publicitaires, avec tout ce qu'on peut voir. Ah, on peut avoir un regard tout de suite. Mais si je suis comme ça, ah ouais, c'est pas mal. Et puis, là, oui. Mais si je... Non. Donc, c'est important de me nourrir de bonnes choses. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est vrai, comme il est dit dans Philippiens. Mais il y a une belle promesse. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et il y a une autre, il y a d'autres promesses encore. Jésus prie. Dans Jean 17, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Jésus qui a prié pour ça. Et même dans Romains, il dit « Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Waouh! Le Seigneur intercède pour nous. Et il y a un autre passage encore, dans Hébreux, où il est dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà, je peux venir, Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi. Tu vois, je suis tellement faible. J'ai tel et tel problème, je peux facilement tomber. Mais Seigneur, toi, tu peux me garder. Et il le fera. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il y a cette attitude dans Pierre. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est la meilleure place là. C'est la main de Dieu. Vous vous rendez compte? S'humilier sur la main de Dieu. Faut qu'on... C'est tellement... C'est la meilleure place. Humilier sous la main de Dieu. C'est... Je suis protégé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh, c'est formidable ce passage-là. Hein? Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, si on le laisse faire. Et il finit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et un autre passage dans Jude. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. C'est pour ça que je peux finir le Notre Père en disant, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons prier. On peut avoir un moment de silence.